Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je me tiens devant vous. J'ai eu la magnifique bénédiction de pouvoir être dans votre église pendant 2 semaines. Et avant de venir, Yann m'avait dit, tu verras l'église de Cossonay, c'est une église bienveillante. Et je peux vous dire qu'il a eu raison, il vous a bien cerné. C'était une vraie bénédiction et j'ai été vraiment béni par les échanges, par vos prières. Donc je voulais commencer par vous remercier. Et je continue en vous remerciant de votre future indulgence à mon égard quant à ce qui va suivre. Vas-y, vas-y. Très bien. Droit devant. La prédication, finalement, c'est je peux parler de quelque chose qui me passionne pendant 20 minutes, 20, 30 minutes, sans que personne m'interrompe. Donc, moi, je suis aux anges. Je regarde un peu vos têtes, savoir si je suis en train de dire des hérésies ou pas, comme ça vous m'interrompez. On va tout de suite attaquer avec 1 Corinthiens 2, la suite de ce que Yohann nous a apporté la semaine dernière. Et je lis verset 6, la vraie sagesse par l'esprit. Cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme, on lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'on enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Et celui qui a cet Esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée du Christ. » J'ai presque envie de dire que j'ai rien à rajouter. Après avoir lu Paul, des fois, on veut juste laisser ça comme ça. Le titre de cette prédication serait « D'où tiens-tu ta sagesse ? Quelle est la source de ta sagesse ?» J'ai commencé par vous exposer un mini contexte de... Dans le cadre que Paul a écrit à cette prédication aux Corinthes, qui va suivre ce que Yohann nous a partagé la semaine dernière. On est dans une société qui est marquée par la philosophie, marquée par l'éloquence, par la sagesse. Et toute cette influence des philosophes grecs, même nous, on connaît toujours, a marqué l'église de Corinthe. À force que même les Corinthiens commençaient à être... À se séparer entre eux, entre ceux qui se disaient sages, ceux qui se disaient ayant reçu, étant plus grands spirituellement que les autres, et les autres qui étaient comme des enfants dans la foi. Et on revient donc au thème que Yohann nous a parlé avec cette séparation qui occurrait dans l'église de Corinthe. Quand on lit ce passage, on voit tout de suite que cette sagesse n'est pas accessible par la sagesse de Dieu n'est pas accessible par notre propre pensée, mais par l'Esprit seul. Et c'est ce que les gens de Corinthe n'avaient pas compris, en tout cas c'est ce que Paul nous transmet. Il nous dit que pour eux, la croix, centre de notre évangile, centre de notre foi, n'était que finalement du lait pour les nourrissons. Les gens de Corinthe étaient tellement dans des sphères de connaissance et de sagesse, que pour eux, la croix n'était finalement qu'une information enfantine, importante, mais basique. Et pour pouvoir accéder, grandir spirituellement, il nous fallait des voies un poil presque mystiques, des voies de sagesse, des voies de nouveau de philosophie. Mais alors, qu'est-ce que cette sagesse humaine qui nous parle? C'est une sagesse fondée sur notre intelligence, une sagesse distincte de Dieu et marquée par le péché. Dans le verset 9, on peut lire « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. » Et j'aime beaucoup ce passage pour parler de la sagesse humaine, parce que cette sagesse humaine ne peut pas comprendre, l'humain ne peut pas comprendre qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous, quel est le message de Dieu. Notre œil ne peut pas voir, notre oreille ne peut pas entendre, notre esprit ne peut pas comprendre qu'est-ce que Dieu a fait. Et cette séparation est marquée, notre sagesse est marquée par cette séparation séparée de Dieu. On va aller très vite à la vraie sagesse. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. La vraie sagesse, c'est la croix. C'est Jésus, finalement. La sagesse inspirée par Jésus. Incarnée par Jésus. Et tout l'évangile, finalement, centre sur ça, la croix. La résurrection, bien sûr, à ne pas oublier. Mais l'importance, finalement, de ça, comme ça, est la base de tout notre message, de toute notre théologie, de toute notre vie, que soit ça le centre qui marque tout le reste, et qu'on ne se perde pas dans des sphères plus élevées. La foi chrétienne n'est pas seulement pour les initiés, mais pour tous. Elle est d'une simplicité et d'une complexité déconcertante. Et cette sagesse divine, elle vient de Dieu et de Dieu seul. Je ne vous dis pas non plus que faire de la théologie, ce serait un peu pas une bonne chose et qu'on se perd à réfléchir à des choses qui ne servent à rien, ce qu'on peut aussi entendre. Je crois que ça peut arriver, mais si on est marqué par l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre ces choses-là, si notre sagesse est transformée par l'Esprit, alors je pense qu'on peut éviter ces pièges. Si nous continuons au verset 14. Merci. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, il est incapable de comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Là, il parle des réalités spirituelles, des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Et c'est ça, finalement, tout l'enjeu de se laisser transformer par l'Esprit. C'est de pouvoir comprendre cette nouvelle réalité, les bienfaits que Dieu nous donne, ces nouvelles réalités spirituelles qui nous sont étrangères par nous, hommes marqués par le péché. Maintenant qu'on sait plus ou moins ça, j'espère que c'est un minimum clair, comment la découvrir? Ce sera mon prochain point. Si vous avez juste écouté ce que je viens de dire, vous pouvez dire par l'Esprit. Et au verset 10, on peut dire, jusqu'au verset 13, on lit toute l'importance de l'Esprit. Et moi, le bout que je trouve extraordinaire, c'est dans le verset 10, il dit « Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit », donc il parle de cette sagesse. « L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Et il y a deux points que j'aimerais relever dans ce verset. C'est « scrute tout », ce que je trouve magnifique, c'est qu'il est au présent. Et j'ai regardé, je ne suis pas en train de faire... Johan, il n'a pas son interlinéaire grec, donc je peux dire ce que je veux finalement. Mais j'ai regardé en grec, c'est au présent. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique. L'Esprit de Dieu, il scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. C'est au présent, il le fait continuellement, il est dans une continuelle relation avec Dieu. Et il nous le transmet finalement. Et c'est pas Jésus, il n'est pas venu pour nous montrer des choses sur Dieu, mais pour nous montrer qui est Dieu. Et l'Esprit, c'est tout est corrélé. L'Esprit aussi nous montre qui est Dieu. Parce que quand on lit les pensées, on peut lire littéralement que même les pensées les plus intimes de Dieu, on peut le dire littéralement, c'est les choses profondes de Dieu, l'essence de Dieu, les attributs de Dieu. Et finalement, sa pensée qui n'est pas dissocié de tout ce qu'il est. Et au centre de toute cette pensée, au centre de cette sagesse que Jésus a incarnée, la croix avec Christ ressuscité. Alors, quand je vois les choses comme ça, je me dis que cette sagesse-là n'est pas aride comme la sagesse humaine, elle n'est pas asséchante comme la sagesse humaine, mais elle est fondée dans la vie. Et plus finalement, nous allons connaître Dieu, nous allons l'aimer. Mais ce que je trouve extraordinaire, et je pense plus d'un d'entre vous peut le témoigner, plus nous connaissons Dieu, plus nous écoutons son esprit, plus nous rendons compte de qui il est, plus nous-mêmes nous connaissons et plus nous-mêmes nous grandissons dans cette identité en Christ qui est finalement le centre de notre vie. De nouveau, cette sagesse-là, toute cette théorie-là, ce n'est pas une théorie justement, et c'est là le point où il faudrait faire attention. C'est pas juste une théorie, c'est pas juste pour des initiés. Elle est révélée à tout le monde, elle est là à tout le monde, elle est donnée à tout le monde. Et ce que je trouve beau, c'est que on peut continuer à lire dans j'ai le mot, mais j'ai plus le verbe. Une seconde. Vous pouvez lire en même temps si vous trouvez. C'est recevoir, nul ne peut connaître. Car, oh voilà, 12. Or, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu cet Esprit. Et ce que j'aime bien d'en recevoir, c'est qu'il y a accepté aussi. C'est un cadeau offert à tous, présenté à tous, que tous ont la responsabilité d'accepter ou non. Donc, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de gens qui sont plus intelligents que d'autres, dans la foi, qui sont plus spirituels que d'autres. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en train de grandir dans cette relation avec Dieu, dans cette découverte de la sagesse. Et j'aimerais aussi pouvoir nous encourager, et Paul insiste beaucoup, et finalement c'est un centre, c'est un des centres de toutes ces lettres, de pouvoir s'encourager les uns et les autres dans la communauté. J'ai vu votre communauté comme elle est, comme je l'ai dit, plutôt bienveillante. Alors soyons attentifs aussi à chercher pour nous, un mentor, quelqu'un qui est plus avancé dans la foi que nous, et nous-mêmes faire attention aux personnes qui sont plus faibles, dans le sens moins avancées dans la foi, qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse les faire grandir. Vous avez aussi un super pasteur qui s'occupe très bien de tout ça. Mais le point que j'aimerais aborder, c'est que nous sommes la responsabilité de tout le monde.
Amen.
Ah, Yann, ça, j'étais tout seul après. Si nous revenons au verset 9, de comment la découvrir, cette révélation de cette sagesse, de cette pensée de Dieu, on lit au verset 9, tout à la fin, « Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Et pour revenir un peu avant à ce que je disais, ce côté cadeau, c'est que nous, on fait rien, en grand terme. Mais nous, on ne fait pas grand-chose. C'est Dieu qui se révèle à nous. Nous, on ne peut rien faire pour découvrir quelque chose que Dieu ne voulait pas nous révéler. Et comme il dit, l'esprit humain n'a même pas soupçonné des choses sur Dieu, et c'est Dieu qui nous révèle. Et il le tient en réserve pour ceux qu'il aime. Alors c'est ça notre responsabilité finalement, notre appel, et que je trouve finalement très, très encourageant et pas du tout légaliste. Nous, on doit aimer Dieu, apprendre à le connaître, l'écouter. Et Dieu tient en réserve qui il est pour les gens qui l'écoutent et qui l'aiment. Alors, rentrons dans cette communion, cette relation dans l'Esprit-Saint pour découvrir un peu plus qui est Dieu. On peut lire en Corinthiens 8:1. Mais la connaissance rend orgueilleux, l'amour lui fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. L'amour au centre. De nouveau, une banalité qu'on entend un peu à chaque prêche, à tout bout de champ, l'amour, la croix égale cœur, toutes ces choses-là. Et pour être honnête, par plus d'un moment, cette réalité-là est venue du lait pour nourrisson, où je me disais, mais attends, Je suis né dans une famille chrétienne, je connais quand même ça. J'ai pas besoin de grandir là-dedans. Je sais que Jésus est mort pour moi, maintenant, on va s'attaquer à la prédestination. Non, Jésus, c'est le centre de notre croix. C'est le centre de notre croix, oui. La croix est le centre de notre vie. Et l'amour que nous avons pour Dieu doit être ce centre-là, doit être ce moteur-là. Parce que, comme on l'a vu un peu plus tôt, notre sagesse humaine, notre esprit humain, notre intelligence humaine est marquée par le légalisme, est marquée par les actions, est marquée par le faire, est marquée par le mérite, est marquée par « je peux faire quelque chose pour découvrir Dieu, je dois faire quelque chose pour cerner qui est Dieu. » Alors que Dieu nous rappelle que si tu crois connaître, je peux vous dire, ça m'est arrivé plus d'une fois, je ne connais pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Quelle finalement autre motivation pouvons-nous avoir dans une vie que d'être connu par Dieu et connaître Dieu? Ce don-là est gratuit, comme je viens de le dire. On ne doit pas faire des études à l'acheter, bien que c'est une chose extraordinaire, je peux vous en assurer. C'est un cadeau, nous recevons l'Esprit de Dieu et ce n'est pas quelque chose intellectuel. Seulement, c'est seulement quelque chose qui tombe dans une sagesse humaine, une théorie, des concepts. Non, nous recevons directement par grâce, gratuitement. Et on lit en verset 12. « Nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits de Dieu, que Dieu nous a accordé par grâce. » Mes amis, on ne peut pas comprendre les bienfaits de Dieu sans l'Esprit. Et moi, ça a été une révélation, de me dire, on ne peut pas comprendre la grâce que Dieu nous a faite, on ne peut pas comprendre les bienfaits qu'il nous donne gratuitement sans son Esprit. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, fondons notre vie sur cet Esprit. Fondons notre intelligence, notre conception du monde sur cet esprit. Au risque de me répéter, cette sagesse est don pour tous, est don pour tout le monde. Comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de division. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et quand on pense un petit peu à la croix, on se rend compte que Dieu s'est révélé dans la faiblesse. Dieu s'est révélé dans la faiblesse par le Christ ressuscité. Il s'est révélé d'une façon dont même nous serons, et je vous prie pour jamais, aussi humiliés qu'il l'a été. Pour que personne puisse se dire, ah, je ne suis pas assez bien, Dieu, il est arrivé comme ça sur un cheval blanc, comme on l'imagine, avec une épée, une chevelure d'or. Non, il est venu dans la faiblesse, dans l'humilité. Et Dieu appelle non des sages, mais des gens ordinaires. Il appelle aussi des sages, heureusement. Mais il appelle surtout des gens ordinaires. Il appelle surtout vous et moi qui veulent juste le servir, qui veulent juste l'aimer. Et quand on lit, on se dit, peut-être que les gens qui n'ont pas reçu l'Esprit ne peuvent pas comprendre tout ça. C'est bien vrai. Mais ce n'est pas que Dieu ne donne pas son Esprit à tout le monde. C'est juste qu'il le propose à tout le monde. C'est un cadeau qu'il propose. Et ensuite, c'est à nous de l'accepter ou non. C'est un chemin qui n'est pas réservé à quelques personnes extraordinaires, des Johann Salsac, par exemple. Non. La brutale réalité de la croix est d'une simplicité que tous peuvent comprendre, et d'une complexité que même après une vie passée à s'y plonger, on continue à découvrir des choses. Et ça, pour moi, c'est un miracle. Alors, si je résume un tout petit peu ce que je vous ai dit ce matin, on a vu l'incapacité de l'esprit humain à comprendre la croix, à comprendre la grâce, à comprendre Dieu. Nous avons vu que pour cela, on a la nécessité de l'Esprit de Dieu pour saisir cette folie, ce scandale qu'est la croix. Et Jésus venant sur terre, incarnant la sagesse de Dieu. Nous avons vu qu'elle nous est donnée gratuitement, un cadeau à tous. Mais, si je vous parle de tout ça, j'ai peur que et c'était mon premier, petite story time, c'était mon premier réflexe, c'était de vous faire ça et de dire « Oh, génial, j'ai fait une super théorie de la sagesse de Dieu, et du coup, je retombe dans la sagesse humaine. » Je suis très très bon quand même, je vous parle 20 minutes de quelque chose et après finalement je la réduis à « Ok, alors du coup il faut point 1, point 2, point 3, si j'ai fait ça c'est bon, j'ai la sagesse humaine. » Non, heureusement la sagesse humaine n'est pas, la sagesse de Dieu n'est pas une théorie que l'on peut juste mettre dans un concept et qu'on peut ensuite laisser pour plus tard. Il y a un cadeau et j'aimerais vous laisser avec cette question, cette réflexion que vous pouvez avoir chacun dans votre chemin avec Dieu. Si tu fermes les yeux ou pas, c'est comme tu veux. Si tu imagines la maison de ton cœur, à quoi elle ressemble, la maison de ton cœur, voilà. Je sais que c'est un peu abstrait, mais chacun a un peu une petite idée, je suis sûr. Où est le cadeau que Dieu, où est ce cadeau-là de l'Esprit, où est-ce qu'il est dans ta maison? Est-ce qu'il est devant ta porte? Tu as raté le coup du facteur, du coup il l'a posé devant ta porte. Génial. Maintenant, il n'y a plus qu'à, un grand terme. Réfléchis à faire rentrer ce cadeau dans ta maison. Et si toi, tu as déjà accepté cette maison, où est-ce qu'il est chez toi? Est-ce que même il est encore emballé? Est-ce que tu l'as reçu et tu t'es dit, ah, ça c'est sympa, ce serait dommage de gâcher du si beau papier, je le prends. Après, il était là dans le couloir, donc il embêtait un petit peu, du coup, je l'ai mis à la cave. Prends un peu la poussière, mais il est toujours emballé. Est-ce que c'est encore le cas? Et si tu l'as ouvert, comment est-ce que tu le décrirais? Comment tu décrirais ce cadeau dans ta maison? Est-ce que c'est un parfum? Quelque chose qui remplit la pièce? Est-ce que c'est quelque chose que tu caches quand quelqu'un vient chez toi? Un objet, un truc que tu as un peu honte, tu caches quand quelqu'un vient? Est-ce que c'est un repas de famille où tu as envie de partager? C'est quelque chose, c'est le partage, c'est l'amour. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu gardes jalousement pour toi? Il est pour toi, tu gardes dans ton cœur, bien caché, bien à la petite place, comme il faut. Il est pour toi, finalement, c'est toi qui l'as reçu. Ou est-ce que c'est un objet posé dans une étagère? C'est cool, ça fait partie du décor, c'est joli. On l'utilise une ou deux fois par année, à Noël et Pâques, et puis voilà. Ou est-ce que c'est un feu qui brûle dans ton cœur, qui réchauffe toute ta pièce et qui éclaire tout? Et là, si c'était déjà arrivé, est-ce que ce feu réchauffe tout ton cœur ou est-ce que tu as mis des petits réchauds un peu à côté? Tu as mis des petits réchauds en te disant « Ok, c'est bien, il est bien ce feu, mais là, il va faire froid, du coup, je vais rajouter encore un petit réchaud, une couverture. » Où est-ce qu'est ce cadeau dans ton cœur? Et en discutant avec ma maman, elle m'a dit quelque chose et là, je me suis dit « Waouh, éclair de génie, je dois vous le partager. » Ça arrive très souvent, c'était pas qu'une fois. Elle dit quand on veut un peu nettoyer notre cœur, comme ça on a l'habitude, la tendance à vouloir tout nettoyer avec, on prend l'aspirateur, on prend tout, comme ça on change tout, on change les meubles de place, voilà on y va. Alors que des fois, et je terminerai en disant ça, il suffit juste d'ouvrir notre porte, ouvrir nos fenêtres, et l'Esprit vient et souffle la poussière. Amen. Merci beaucoup.